Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée au Mexique. La situation au Proche-Orient et la propagation de la violence proche-orientale dans un nombre chaque semaine plus grand de pays a fait oublier ou plutôt écarter des feux de la rampe ce qui se passe ailleurs. Des gens qui s'évanouissent dans la nature, des fosses communes emplies d'ossements, des corps démembrés jetés dans des maisons abandonnées. Ces atrocités ont pour théâtre le continent américain et particulièrement le Mexique, un pays plongé dans l'horreur et la violence telle que l'a révélé au monde de la disparition en septembre 2014 de 43 étudiants dont aucune trace n'a jamais été retrouvée. Une tragédie qui a mis au jour une crise des droits humains de proportions inimaginables, marquée par la disparition de près de 30 000 hommes, femmes et enfants au cours des dernières années. Une tragédie qui a ouvert une boîte de Pandore de crimes, négligences et collusions politiques qui semblent toucher les plus hautes sphères du pouvoir mexicain. Pour en parler, nos invités, Geneviève Garrigós, présidente d'Amnesty International France, bonjour.
Bonjour.
Gilles Bataillon, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, bonjour.
Bonjour.
Et Jean Révelois, chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et enseignant à Paris 3 et Paris 1, bonjour.
Bonjour.
L'arrestation récente du plus célèbre narcotrafiquant de la planète, Joaquin Guzmán Loera, chef du cartel de Sinaloa, surnommé El Chapo, a remis le Mexique sous les feux de la rampe alors que l'enquête sur la disparition en septembre 2014 de 43 étudiants n'a toujours pas permis d'élucider l'affaire. L'arrestation d'El Chapo, comme on l'appelle, vient d'une certaine manière redorer l'image du gouvernement mexicain, particulièrement terni dans le contexte d'extrême violence que connaît le Mexique depuis plusieurs années, sans que cela soit imputable à l'actuel président Peña Nieto. Quoique, en tout cas, plus de 100 000 morts et 26 000 disparus depuis 2006, ou même 30 000 disparus. La question est, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Jean Révelois.
Il faut comprendre que la situation a changé au Mexique à partir de 2007. Jusque-là, il y avait des groupes de narcotrafiquants qui sévissaient, entre guillemets, dans une grande partie du pays, notamment sur les routes de la cocaïne et aux frontières avec les États-Unis. Et tout cela se passait d'une manière relativement pacifique, jusqu'à ce qu'en 2007, le gouvernement mexicain décide de déclarer, sous l'instigation des États-Unis, la guerre aux narcotrafiquants. Les choses ont changé à partir de ce moment-là, parce que le gouvernement mexicain a envoyé l'armée pour lutter contre les groupes de narcotrafiquants qui sont bien implantés dans une grande partie du pays. Et en 2010, ces groupes de narcotrafiquants, et notamment le groupe dont on parle beaucoup en ce moment, celui du Chapo Guzmán, a lui-même décidé de déclarer la guerre à l'État mexicain. Si bien que on est dans une situation de guerre qui n'est pas, si vous voulez, une guerre conventionnelle, qui est plutôt une guerre asymétrique. Et les narcotrafiquants sont infiltrés au sein de la population. Ils contrôlent énormément d'autorités locales dans plusieurs États importants du Mexique, notamment le Guerrero et le Michoacán. Et il y a donc un décalage, un décrochage entre la volonté politique au niveau national et son application au niveau local. C'est ce qui est apparu justement lors de l'affaire d'Ayotzinapa. Concernant les morts et les disparitions, le gouvernement mexicain a développé une stratégie qui est assez habile, qui consiste à faire en sorte que les narcotrafiquants s'éliminent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une guerre entre les différents groupes de narcotrafiquants qui se jalousent leur territoire et donc qui s'éliminent entre eux, si vous voulez. Donc la troisième dimension, c'est que la population civile, notamment au niveau local, est prise en otage par les groupes de narcotrafiquants, ce qui déstructure les sociétés locales parce que les narcotrafiquants se sont diversifiés. Beaucoup de narcotrafiquants pratiquent maintenant le vol de propriété. Ils ont besoin des propriétés pour blanchir et recycler leurs profits qu'ils réalisent avec la vente de drogue et également des enlèvements avec demande de rançon, qui est un phénomène très important. Et cela aboutit à déstructurer les économies locales.
On en parlera un peu plus loin dans l'émission. Gilles Bataillon, je me tourne vers vous. Un commentaire sur ce que vient de dire Jean Révelois.
Oui, moi je nuancerais sur deux choses. D'une part, la violence commence avant le mandat du président qui lance la guerre contre les narcos, au sens où il est extrêmement, disons, les choses commencent sous le mandat de Fox, qui est le premier mandat d'un président qui n'appartient pas au PRI.
En 2000, c'est bien cela.
Qui rentre au pouvoir en 2000, et c'est dès la fin de son mandat que la violence commence à monter. Mmh. Et le président qui lui succède, Calderón, lance la guerre contre la drogue, pas simplement sous l'initiative des Américains, mais parce qu'il a besoin d'apparaître comme un président fort, après avoir été élu avec une marge, un nombre de voix très peu important, qu'il fait se distancer de son premier concurrent. Donc il rentre là-dedans, et la chose qui a aussi déclenché la guerre, c'est la fin du monopole du prix, qui jusque-là avait dealé avec les grands trafiquants de drogue. Et disons, le plus bel exemple de ça, c'est le frère de Salinas de Gortari qui était compromis dans des histoires de trafic de drogue comme peu. Et disons, l'idée qu'on puisse penser que son frère, président de la République, n'était pas au courant est tout simplement ridicule. Et il y avait une très vieille tradition de collusion entre les élites politiques et le monde du narcotrafic et de la contrebande. Et c'est cet équilibre qui s'est rompu, au sens où à l'époque du prix, le prix dominait tout ça et, disons, attribuait, moyennant finances, de l'argent qui venait de la corruption, des places et des lieux ou des couloirs de transit à un certain nombre de narcotrafiquants. Et c'est tous ces équilibres qui ont été remis en place avec la redistribution des cartes, qui a été l'élection d'un président du PAN à la tête de l'État, et avec en même temps un pays où la majorité des gouverneurs restaient membres du PRI. Mmh. Donc il y avait toute une série de désarticulations entre des systèmes de pouvoir et de prébande qui ont été remis en question, et remis en question par des démonstrations de violence, pour dire voilà, c'est nous qui avons la haute main sur les affaires dans tel ou tel coin.
Alors le PRI, juste... Je ne vais qu'arriver.
Oui, à cela tout de même, il faut quand même rajouter les déficiences mais profondes du système mexicain concernant justement tout ce qui va être les enquêtes de police, la police, et tout ce qui concerne la justice. C'est-à-dire que un des problèmes majeurs, c'est le manque d'enquête et l'impunité totale. Non seulement, bien sûr, il y a la question des narcotrafiquants qui vont enlever, assassiner, etc. Mais il faut voir que soit il y a collusion avec les administrations locales, on l'a vu dans le cas d'Iguala avec le maire, mais aussi avec les forces de police. Et quand il y a des exactions qui sont commises par la police, par l'armée, il y a une impunité quasi totale. Et donc, il y a d'une part, effectivement, la population qui est prise entre les narcotrafiquants, mais aussi très souvent vis-à-vis des forces de l'ordre, des forces de police, et qui est, elle, victime d'enlèvements et de disparitions, à la fois de la part des narcotrafiquants et de la part de l'État. Quand il s'agit de l'État ou de ses agents, on parle de disparitions forcées. Aujourd'hui, on est incapable de dire au Mexique combien de disparitions sont dues à l'État, combien sont dues au narcotrafic et au crime en général.
Jean Révolois.
Je suis entièrement d'accord avec vous, madame. Et j'en tirerai la conclusion que le problème numéro un du Mexique à l'heure actuelle, c'est moins un problème de violence qu'un problème de corruption. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une corruption des autorités politiques locales et des autorités institutionnelles, c'est parce qu'on peut acheter des juges au Mexique que le narcotrafic a pu se développer. Alors certes, il y a de la violence, certes elle est dramatique, mais la violence est un effet d'un système qui est structurellement corrompu. Ce qui signifie que la guerre contre la drogue au Mexique sera vaine tant que le régime ne s'attaquera pas à la corruption politique et institutionnelle. Et pour reprendre ce que disait Gilles, c'est vrai que dans tous les États mexicains où prolifère le trafic et la culture de drogue, les gouverneurs ne peuvent pas ne pas être au courant de ce qui se passe dans leurs États. Donc, si l'on veut remédier au problème, il faut que la justice puisse s'exercer, et il faut, la preuve qu'elle s'exercera, sera quand les gouverneurs compromis, qui sont les caciques, les grands caciques locaux, seront jugés et condamnés pour leur participation au trafic de drogue. Malheureusement, le pouvoir politique ne peut pas faire ça, parce que, comme l'a dit Gilles, la plupart des gouverneurs sont les soutiens du régime actuel et sont membres du même parti que le président. Ce qui signifie que si on les met en prison, si le président décide de les mettre en prison, c'est comme s'il se tirait une balle dans le pied.
Vous écoutez RFI.
RFI. Géopolitique.
Marie-France Chatin.
Alors, Gilles Bataillon évoquait tout à l'heure le PRI, donc, qui est le parti révolutionnaire institutionnel, qui a eu le pouvoir au Mexique sans partage jusqu'à l'an 2000. Hein, on l'a évoqué avec l'élection de Vicente Fox du Parti d'Action Nationale. Vous l'avez dit, Gilles Bataillon, cette alternance démocratique a modifié les rapports entre le crime organisé et l'État mexicain. Ce sont les narcotrafiquants qui ont le pouvoir au Mexique.
Disons ce qui s'est passé. Il y a eu une époque, si j'ose dire, de contrebande et de narcotrafic relativement tranquille. Il y a eu la fermeture suite aux actions des Américains de la voie Caraïbe pour l'introduction de la cocaïne aux États-Unis. Et le Mexique est devenu le grand endroit où passait la cocaïne. Ce trafic de cocaïne s'est multiplié et des gens qui étaient des petits transporteurs, qui étaient les narcotrafiquants mexicains, sont devenus des très gros transporteurs face à des cartels affaiblis et divisés en Colombie. Donc les Mexicains sont montés en force et ils ont eu un moment où les structures politiques changeaient, les équilibres n'étaient plus les mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait un pouvoir qui était divisé et il y avait plus ce qu'on appelait au Mexique le carro completo, avec des gouverneurs et un président du même parti, mais un pouvoir divisé avec un président d'une couleur, des chambres divisées et des gouverneurs de différentes couleurs politiques. Et donc là, des transporteurs qui devenaient de plus en plus importants, donc qui avaient un pouvoir de corruption de plus en plus important, ont joué un rôle capital et ont été dans un rapport de force en leur faveur face à des gens moins puissants qu'avant. Et la chose qui a beaucoup changé, qui a encore accentué les choses, c'est l'inexistence d'une justice indépendante et capable d'élucider des crimes. Il y a une justice qui est déficiente au Mexique depuis plus d'un demi-siècle. Et il y a un appareil judiciaire qui est aux mains des gouverneurs. Il y a un professeur de droit américain, Buscaglia, qui travaille là-dessus depuis des années et qui a montré ça de façon remarquable. Et disons, c'est le défi auquel est confronté le pays. Et ce qui est, à mon sens, en partie nouveau, c'est que des gens qui font partie des élites éclairées plutôt proches du prix, aujourd'hui, s'émeuvent de ça. Par exemple, il y a quelques mois, dans une revue mensuelle qui s'appelle Este País, une grande série d'articles sur la corruption au Mexique et en montrant comment c'était devenu le premier frein au développement. Alors, c'est pas nouveau, mais c'est nouveau qu'une revue comme Este País fasse tout un ensemble là-dessus. De la même façon, il y a eu en décembre, dans une autre revue qui est faite par des intellectuels plutôt proches du prix comme Nexos, il y a eu une série d'articles qui s'appelait Le silence de Los Pinos, c'est-à-dire de la présidence, en disant voilà, on est face à une présidence paralysée qui n'est plus capable de faire grand-chose. Et là, il y a l'idée que les intellectuels qui avaient pensé que les grandes réformes libérales lancées par Peña Nieto allaient changer la donne au Mexique, ils disent le pays piétine et il faut qu'on change un certain nombre de choses, ce qui est nouveau et ce qui est bien le signe qu'il y a une crise très grave du pays.
Peña Nieto qui a été élu en 2012 sur la promesse d'apporter des solutions à toute la situation que connaît le Mexique, Geneviève Garrigós.
Oui, mais par ailleurs, par exemple, il s'était engagé bien sûr à réaliser enfin la réforme pénale que tout le monde attend. Parce que quand on parle de la justice, il y a tous les problèmes qui ont été déjà évoqués, mais en plus, il y a trois niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le niveau fédéral, il y a le niveau des États qui est plutôt sous le contrôle des gouverneurs, et il y a le niveau local qui va être sous le contrôle des maires, notamment pour tout ce qui est police, investigation, etc. Avec toutes les difficultés que cela entraîne, des législations qui sont même différentes d'un État à un autre, et il s'était engagé à cela. Le deuxième aspect, c'est que là aussi, il s'était engagé à ne plus utiliser l'armée dans la guerre contre le narcotrafic. Parce que ce que l'on a vu, c'est que, et ça c'était déjà même antérieur à la déclaration de guerre contre le narcotrafic, compte tenu du niveau de corruption des forces de police, le gouvernement mexicain utilise l'armée pour lutter contre le narcotrafic. Or, l'armée, elle n'est pas formée à ça, et notamment vis-à-vis des populations, on l'a vu notamment dans le Guerrero, vis-à-vis des populations autochtones, il y a eu des violations très graves, des femmes violées, etc. Donc, en plus, ça crée des tensions très très forte du fait de l'utilisation de l'armée et de l'augmentation de la violence. Et même si lui s'était engagé à cela, finalement, quand aujourd'hui on dit, sont enregistrés, hein, c'est le chiffre à minima parce que tout le monde ne déclare pas ses disparus. Depuis 2006, il y a eu 27 000 personnes disparues. Mmh. Il faut voir que plus de 40%, c'est depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu une accélération depuis l'arrivée du nouveau président.
Alors, tout le monde ne déclare pas les disparitions. Geneviève Garrigos, il y a une raison évidente.
Ben, la première, c'est la peur. Et moi, justement, j'ai rencontré des mères de disparus quand j'étais au Mexique en fin d'année. Et clairement, elles le disent. Si je vais déclarer mes disparus, eh bien, je deviens suspecte au regard de mes voisins parce que il y a une criminalisation des personnes disparues. On a toujours l'impression que c'est juste les gangs de narcotrafiquants. Mmh. Non, ça peut être pour des rançons, ça peut être pour des questions très diverses. Dans le cas des étudiants de Ayotzinapa, on sait très bien que c'était pour des questions politiques, hein, puisqu'ils étaient justement dans ce lycée agricole qui avait une fonction sociale et ils partaient manifester pour demander plus de crédits et autres. Donc, les gens disparaissent pour de multiples raisons et qui sont souvent inconnues. Et le fait d'aller déclarer, déjà la police, le plus souvent, elle classe en verticale les plaintes, oui,
et
c'est ça. Elle les enregistre
papier,
même pas. Voilà, c'est classement vertical. Parfois, c'est juste une petite feuille. Mais derrière, donc, il y a le voisinage qui s'inquiète parce que ils participent au narcotrafic.
Ça sème le doute.
Est-ce que c'est parce que politiquement, etc. Donc déjà, il y a une stigmatisation très forte. Il y a des menaces, du harcèlement par téléphone, et donc certaines familles sont obligées de déménager à plusieurs reprises, et elles se retrouvent dans une situation où beaucoup ne déclarent pas parce qu'elles ont peur des conséquences que ça peut entraîner. Et de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que comme la police ne fait pas les recherches, ce sont les familles elles-mêmes aujourd'hui qui s'organisent en association, qui développent des méthodes pour apprendre à comment faire les recherches, qui vont voir la police avec des nouveaux éléments, mais elles ne suivent pas. Donc, il y a tout un système qui s'est développé où certaines familles préfèrent se taire.
Et les familles qui instruisent elles-mêmes les dossiers, Jean Rivelois.
Oui, le président Calderón, qui était le prédécesseur à la présidence de la République avant l'actuel président, a choisi effectivement de faire intervenir l'armée, dont le rôle est traditionnellement de garantir la souveraineté du pays et qui ne doit pas théoriquement s'immiscer dans la lutte contre le narcotrafic, qui est un problème de sécurité nationale, qui relève donc de la police. Pourquoi n'a-t-il pas engagé les forces de police dans cette guerre, entre guillemets? C'est parce que, effectivement, que ce soit au niveau local ou au niveau national, les polices sont fortement corrompues. Au niveau local, elles ne peuvent pas ne pas être corrompues. Pourquoi? Parce que le rapport de force au niveau local est favorable aux groupes de narcotrafiquants. Les groupes de narcotrafiquants sont plus armés, ont des effectifs qui sont plus nombreux que ceux des forces de police. Et si les policiers ne coopèrent pas avec les narcotrafiquants, ils sont tout simplement assassinés. Donc, si le gouvernement fédéral ne prend pas en charge une réforme de la police au niveau local, le problème restera le même. Deuxièmement, les narcotrafiquants, pour répondre à la question que vous posiez au départ, n'ont pas le pouvoir au Mexique. Le Mexique n'est pas un État mafieux, contrairement à ce que voudraient nous faire croire les Américains. Il y a des institutions qui fonctionnent, il y en a d'autres qui fonctionnent moins, il y a des contre-pouvoirs, les journalistes par exemple, il y a des contre-pouvoirs institutionnels également, et il y a des contre-pouvoirs sociaux aussi, on l'a vu à Ayotzinapa, les étudiants manifestent, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont fait assassiner, comme vous le rappeliez.
On va évoquer l'histoire, mais les journalistes, Jean Rivelois, rapidement pour terminer cette première partie d'émission, lorsqu'ils s'en prennent au pouvoir, ils sont démissionnés, déplacés,
ou assassinés, bien sûr.
Donc les contre-pouvoirs sont quand même très mis à mal au Mexique.
Ils sont réprimés, non pas par le pouvoir officiel, si vous voulez, mais souvent par les groupes de narcotrafiquants eux-mêmes. Bon, de toute façon, il y a collusion entre les deux. Alors, donc, tout cela m'amène à dire que, effectivement, la violence n'est pas nouvelle au Mexique. Elle date des années 70, lorsque la cocaïne est devenue la rente principale illégale. Cette cocaïne, il faut aller la chercher dans la zone andine, elle ne pousse que là, et les narcotrafiquants mexicains sont devenus progressivement, comme le rappelait Gilles tout à l'heure, à la faveur donc de la décapitation des grands cartels colombiens, ils sont devenus les maîtres du trafic.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Geneviève Garrigos, Gilles Bataillon et Jean Rivelois dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur le Mexique, nous retrouvons nos invités Geneviève Garrigós, présidente d'Amnesty International France, Gilles Bataillon, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Jean Rivelois, chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et enseignant à Paris 3 et Paris 1. Nous l'évoquions en introduction de la première partie de l'émission, l'arrestation récente du plus célèbre narcotrafiquant de la planète, Joaquin Guzmán Loera, chef du cartel de Sinaloa, surnommé El Chapo. Est-ce que cette nouvelle arrestation, puisqu'il s'était échappé de sa prison l'été dernier, est un signe, et dans quel sens, Gilles Bataillon ?
C'est le signe que l'infanterie de marine, quand elle veut faire du renseignement et poursuivre des gens, est capable de le faire. Et beaucoup de gens disent que c'est sur la base de renseignements qu'ils ont eu, eux, et pas les Américains, puisqu'à partir du moment où les Américains ont su que Sean Payne voulait faire un entretien avec le Chapo, l'acteur, ils ont levé le pied en disant « si jamais il y a une arrestation et que ça se passe mal et qu'on tue Sean Payne, on aura des débats infinis et des emmerdements infinis aux États-Unis. Donc laissons faire les Mexicains seuls ce qu'ils ont fait ». Et la grande question qui se pose avec l'arrestation du Chapo Guzmán, c'est deux. Un, il a toute une série de propriétés qui ont des existences légales, où il blanchit son argent. Et est-ce qu'on suspend l'activité de ces entreprises dans toute une partie du pays parce que c'est des entreprises qui blanchissent de l'argent qui vient du trafic de drogue? Deuxième question, est-ce qu'on va interroger le Chapo, qu'il soit extradé aux États-Unis ou pas, sur les très nombreuses complicités dont il a bénéficié à différents niveaux de l'appareil d'État mexicain ou dans le système pénitentiaire lors de sa première évasion spectaculaire? Et une des façons de ne pas répondre à ces questions pourrait être d'extrader le Chapo rapidement aux États-Unis et qu'il conclue un deal avec la justice américaine, et que toute une série de ces questions qui sont très gênantes pour la classe politique mexicaine et le fonctionnement de l'appareil judiciaire et policier soient réduites à néant. Disons, c'est une des grandes questions, et c'est une question très importante autour de l'arrestation du Chapo, par-delà les feuilletons avec les deux comédiens qui sont ridiculisés dans l'affaire.
Alors, c'est très gênant au Mexique, mais pas seulement. Il y a aussi des complicités à l'international qui sont évoquées. Il faut dire que ce cartel de Sinaloa, à la tête duquel El Chapo se trouve, c'est une organisation qui est une véritable pieuvre, avec des racines absolument partout, ouverture sur le Pacifique, influence en Asie, en Océanie, en Europe, en Afrique, et puis plus récemment au Moyen-Orient, Jean Rivelois.
Oui, le cartel de Sinaloa, que contrôlait et que sûrement contrôle encore par personne interposée, le Chapo Guzmán, est sûrement un des plus importants cartels de drogue du Mexique. Sa zone d'influence s'étend sur 17 des 31 États du Mexique. Il fournit de la cocaïne dans 43 pays. Et il est leader du trafic de drogue, donc, aux États-Unis, puisque un tiers de la cocaïne qui est distribuée aux États-Unis provient de ce trafic, ainsi que 60% de l'héroïne qui est consommée, et les méthamphétamines qui sont consommées aux États-Unis. Le cartel est présent dans chacun des 50 États des États-Unis. Donc, c'est une véritable multinationale. Alors c'est une multinationale qui, comme toutes les multinationales, dégage des profits. Et le problème, c'est que comme ce sont des profits illégaux, il faut effectivement les blanchir par la suite. Pour les blanchir, la solution de facilité consiste à rapatrier les capitaux en liquide au Mexique. C'est pas toujours possible. On va donc utiliser le système financier international et utiliser des fourmis qui vont blanchir l'argent de la drogue. Et cet argent va être ensuite récupéré au Mexique. Au Mexique, selon moi, il va s'agir d'un blanchiment institutionnel. C'est-à-dire que c'est à travers l'impôt informel que payent les narcotrafiquants aux responsables politiques que le blanchiment va s'opérer, et que donc une partie des profits dégagés va être recyclée dans l'économie réelle par des personnalités qui n'ont de compte à rendre à personne, notamment les gouverneurs et les maires des grandes villes. Donc, il est certain que si l'on veut s'attaquer au narcotrafic au Mexique, il faut s'attaquer là où ça fait mal, c'est-à-dire au niveau financier. Et là, c'est pareil, à partir du moment où les narcotrafiquants utilisent des personnalités politiques ou institutionnelles ou des paradis fiscaux, pour blanchir, eh bien, ils sont d'une certaine manière intouchables s'il n'y a pas une volonté politique internationale pour y remédier. Tel est, à mon sens, l'un des principaux problèmes.
En tout cas, donc, à propos de El Chapo, on verra si effectivement il y a extradition aux États-Unis, comme cela est tout à fait probable, et tout ce que cette affaire viendra sans doute révéler. J'en reviens et je me tourne vers vous, Geneviève Garrigos. La disparition de 43 étudiants en septembre 2014, elle a fait l'effet, cette affaire, d'une sorte de cataclysme. C'est devenu une affaire d'État au Mexique avec des répercussions internationales. Des assassinats, il y en a tous les jours dans ce pays, on l'a dit, des disparitions. Comment expliquer la résonance de cette affaire ?
Tout simplement déjà parce que, bon, c'est vrai qu'on a tout de suite en tête les 43 étudiants, mais c'est aussi le contexte dans lequel ça s'est passé, avec ces bus qui ont été arrêtés, attaqués par les forces de police. La question est comment 43 étudiants peuvent disparaître comme ça ? Mais l'importance également, c'est que finalement, dans les premiers temps, la justice n'a absolument pas réagi. C'est-à-dire, on a voulu, je dirais presque, faire là encore un classement vertical. Sauf que les familles, et ça concernait de très nombreuses familles, ont commencé à manifester et ça a pris de l'ampleur. Et par rapport à Ayotzinapa, clairement, ça a eu une résonance internationale du fait de l'ampleur de ces enlèvements. Et le Mexique est lui-même très soucieux de son image internationale. Parce que là, on est en train de parler ce qui se passe à l'intérieur, mais sur la scène internationale, depuis justement le président Fox, il a toujours eu à cœur d'être justement aux avant-postes. Et ça a été un des États qui a notamment porté aux Nations Unies la Convention sur les disparitions forcées et qui est porteur de beaucoup de textes et d'avancées au niveau des instances internationales. À l'intérieur, il ne se passe rien. Mais quand il y a des scandales comme ça qui émergent, quand ça prend une telle résonance, il a besoin d'agir aussi par rapport à son image à l'extérieur du pays. La difficulté, c'est que, comme dans tous ces cas, eh bien, la police n'a pas été en mesure de mener les enquêtes. Et ce n'est que à partir du moment où il y a eu un groupe d'experts indépendants qui a été nommé par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, plus le gouvernement mexicain qui a accepté que les anthropologues légistes argentins, qui sont justement très reconnus pour cela, puissent venir enquêter, qu'on a eu des avancées. Bon, le maire de la ville d'Iguala, où se sont déroulés ces faits, et sa femme aujourd'hui sont derrière les barreaux. Le premier rapport qui a été sorti par la commission des experts est incroyable, de détails, et pour voir, comprendre comment ça s'est passé. De nombreux policiers ont été arrêtés, parce qu'on voit bien que c'est, dans un premier temps, les étudiants ont été arrêtés par la police, et ils auraient été remis à des narcotrafiquants. On a dit qu'ils avaient été emmenés sur un terrain et qu'ils auraient été brûlés, leurs cendres jetées dans une rivière. Que ce soit le groupe des experts ou les anthropologues argentins ont nié cette possibilité. On ne sait pas où se retrouvent leurs restes parce que malheureusement, on pense que de toute façon, ils ont été assassinés. Et derrière, aujourd'hui, et c'est pour montrer l'ampleur des carences de l'État, ce sont les familles elles-mêmes qui continuent à aller chercher dans les montagnes, dans les champs, les fosses pour essayer de retrouver leurs enfants, leurs disparus. Et depuis, on a retrouvé de très nombreuses fosses avec de très nombreux cadavres, mais à part un os qui a été identifié par les légistes argentins, parmi toutes ces fosses, on n'a pas retrouvé les étudiants. Mais ça montre aussi l'ampleur des disparitions dans la région au regard de ces très très nombreux cadavres qui ont été retrouvés.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, 100 000 morts et près de 30 000 disparus au Mexique depuis 2006. On l'évoquait tout à l'heure, le président mexicain Peña Nieto a fait du respect des droits de l'homme une priorité. Gilles Bataillon, on évoque aussi, Geneviève Garrigos parlait de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, une éventualité que la CPI, la Cour pénale internationale, puisse intervenir au Mexique.
Je ne sais pas du tout si elle peut et comment elle peut être saisie. À mon avis, ça me paraît peu probable, mais ce qui me paraît très important, et pour poursuivre ce que vient de dire Geneviève, c'est cette façon dont l'État mexicain à la fois était incapable de répondre de façon institutionnelle aux crimes qui avaient été perpétrés à Ayotzinapa, mais c'est aussi, disons, la carence de stature d'homme d'État de Peña Nieto dans l'affaire. C'est-à-dire Peña Nieto a été incapable de se rendre sur place, de parler avec les familles sur place. Il les a reçues en catimini et il a été incapable de dire, voilà, l'État est déficient, mais moi, président de la République, je m'engage à ce que ça change. Et je m'engage devant les familles, sur le lieu où ça s'est passé. Il y a eu un article extrêmement fort d'un des grands intellectuels mexicains, qui est Enrique Krause, qui avait applaudi, disons, aux mesures libéralisant l'économie, et qui a fait un article qui est paru à la une du New York Times l'an dernier, en disant « Peña Nieto doit s'excuser devant les Mexicains de la façon dont les choses ont tourné. » Et là, il y a une faillite, non pas simplement des institutions, mais de celui qui les incarne. Et c'est là qu'on est assez étonné de la façon dont il a été reçu en France le 14 juillet dernier, c'est-à-dire la grande réception élyséenne et la médaille de la Sorbonne donnée par le recteur de l'Académie de Paris.
Oui, François Hollande qui s'était rendu au Mexique en 2014 et en retour, le président mexicain était invité avec un détachement des forces armées à célébrer le 14 juillet, qui est donc la fête nationale à Paris. Jean Révoilois.
Oui, et pour compléter l'information, il a été humilié avant même d'arriver à Paris, puisque deux jours avant son arrivée, le Chapo Guzmán s'est évadé. Donc, je voudrais revenir sur l'affaire d'Ayotzinapa, qui, moi, m'a étonné, parce que, dans ce cas-là, il a été révélé comment un groupe local, disons régional, de narcotrafiquants pouvait apparaître comme des agents supplétifs des forces de l'ordre. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est nouveau au Mexique. La police municipale a confié les étudiants qu'elle venait d'arrêter à un groupe de narcotrafiquants qui les a exécutés. Alors, est-ce que les narcotrafiquants les ont exécutés parce que les policiers ou le maire leur avaient demandé de le faire, ou est-ce que les narcotrafiquants l'ont fait de leur propre autorité, si je puis dire? On ne sait toujours pas, mais il n'empêche que là, c'est tout de même une compromission incroyable, le fait que la police municipale livre des étudiants aux méchants, entre guillemets. Alors, ça, c'est un phénomène nouveau pour moi. Je voudrais revenir également sur le fait que la violence au Mexique est le problème numéro un de l'actuel président. L'actuel président a été élu, il ne faut pas l'oublier, en 2012. Le peuple mexicain l'a élu pour lui demander de mettre un terme à la violence qui avait été déclenchée par son prédécesseur, par la guerre qu'il avait déclarée aux narcotrafiquants. Ce qui signifie que les Mexicains, en 2012, ont demandé à Peña Nieto de négocier avec les narcotrafiquants pour faire baisser le niveau de violence qui devenait insupportable pour la population. Tel est le dilemme politique à l'heure actuelle au Mexique. Soit on négocie avec les narcotrafiquants et on accepte la corruption qui provient d'eux, soit on ne négocie pas et on va vers un projet d'établissement d'un état de droit, et à ce moment-là, on déclare la guerre aux narcotrafiquants et à leur soutien politique et institutionnel pour faire une division qui a cours dans beaucoup de pays, dans les pays de droit, si vous voulez, entre les bons d'un côté et les méchants de l'autre. On ne supprimera pas les méchants, mais le problème, c'est de mettre chacun à leur place. C'est ce que n'a pas fait le président à l'heure actuelle. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Il n'a pas négocié avec les narcotrafiquants et il n'a pas montré une volonté politique d'établir un état de droit au Mexique.
Alors, pour éclairer les auditeurs et peut-être terminer cette émission sur le Mexique, ce qu'on a compris, c'est qu'on avait davantage affaire au Mexique à un problème de corruption institutionnelle, structurelle, davantage qu'à un problème de sécurité. Il n'empêche, comment sortir de ce que vous avez évoqué les uns et les autres, sur quoi peut-on reconstruire et finalement aussi par quoi commencer? Je ne sais pas qui veut répondre. Gilles Bataillon.
La chose qui est la plus importante, c'est de reconstruire un appareil de justice ou de construire un appareil de justice indépendant. Et un essayiste mexicain, qui est un des plus subtils, Gabriel Saïd, avait expliqué que, par exemple, quand on avait déployé l'armée sur tout le territoire, ça n'avait servi à rien ou à pas grand-chose, mais que, par contre, on aurait mis l'armée à contrôler les prisons qui sont, finalement, le lieu et les sièges des cartels où les gens, à l'intérieur des prisons, continuent à organiser le trafic de drogue ou des meurtres vis-à-vis de leurs rivaux. C'était une des premières choses à faire. Et il avait dessiné un plan raisonnable et faisable, et qui était beaucoup moins, disons, avec beaucoup moins d'esbrouffe, et en disant, voilà, l'important, c'est de prendre le contrôle des prisons et de fortifier et de créer un appareil de justice indépendant. Ça suppose une volonté politique que, pour le moment, on ne voit pas venir.
Oui. Geneviève Garrigos.
Oui, et l'appareil de justice doit permettre à la fois de lutter contre le narcotrafic, mais aussi contre l'impunité pour les actes dont se rendent responsables, que ce soit les forces de police ou l'armée. Parce que la population mexicaine n'a plus confiance en sa justice. Et c'est même à un point que la police, par exemple, pour avoir des résultats, va arrêter des personnes qui sont totalement innocentes, va les torturer pour leur extorquer des aveux, et comme ça, ils vont améliorer leur taux de résolution de crimes. Donc, toute la société civile subit les impacts des carences de la justice, soit quand elles sont victimes, soit elle les en rend victimes. Et ça, c'est majeur, parce que tant qu'il n'y aura pas ce rétablissement dans la confiance et le fait que les personnes, les victimes et leurs familles ne puissent pas avoir justement droit à la vérité et à la justice, eh bien ça mine totalement la société.
Alors justement, est-ce qu'on la voit, cette société civile, s'organiser, et qu'est-ce qu'il en est de l'opposition à l'actuel président Peña Nieto au Mexique? 3 minutes pour terminer, Jean-Yves Leloir, rapidement.
Devant l'échec de la guerre contre la drogue, c'est-à-dire devant l'échec des politiques et des institutions, notamment l'institution militaire et policière, il ne reste finalement qu'une sortie. C'est la mobilisation de la société civile qui s'organiserait donc en contre-pouvoir, et cette mobilisation qui serait reprise par les partis politiques de gouvernement. Or, à l'heure actuelle au Mexique, les 3 principaux partis politiques de gouvernement sont compromis avec les narcotrafiquants. Si bien que le problème, à mon sens, numéro 1 au Mexique à l'heure actuelle, c'est un problème d'offre politique. Il n'y a pas de parti politique institué qui représente véritablement ce que souhaite la société civile mexicaine. Et il faut donc reconstruire le système politique mexicain, ce qui signifie mettre en avant d'autres normes, et notamment des normes judiciaires, qui permettent l'établissement d'un état de droit au Mexique. L'état de droit a failli au Mexique, il faut le dire, et il faut reconstruire le système politique.
Geneviève Garrigos.
Alors, moi, j'ai trouvé dernièrement, quand j'étais sur place, une société civile qui est extrêmement, extrêmement mobilisée et dynamique. Que ce soit les associations de familles disparues, il y en a des dizaines et des dizaines qui se regroupent justement pour lutter contre ce fléau, pour mener des enquêtes. Également les associations qui viennent en aide aux migrants qui sont victimes également de disparitions, notamment de la part des narcotrafics. C'est là aussi un drame profond. Mais sur les droits des autochtones, à tous les niveaux, il y a une société civile, même menacée, même qui harcelée, même justement parce qu'ils sont aussi dans la cible des uns et des autres, se mobilisent, et c'est la vitalité est extraordinaire. Et c'est vrai que là, il y a un grand espoir, et c'est pour ça aussi qu'il faut une justice indépendante qui puisse assurer leur protection, et notre rôle à tous aussi de mettre en lumière ce qui se passe pour leur apporter protection.
Gilles Bataillon.
Pour conclure, je dirais qu'il est extrêmement important qu'à l'étranger, il y ait des gens qui appuient cette société civile, et qu'en particulier les gouvernements européens ne soient pas simplement soucieux d'établir leurs entreprises et de voir comment ils peuvent investir leurs capitaux, mais qu'à la fois ils aient des discours extrêmement fermes vis-à-vis des pouvoirs mexicains et pas de complaisance, et qu'en même temps, ils accueillent les demandes de cette société civile et qu'ils y fassent écho. Ce qu'on voit très peu pour le moment, malheureusement.
À bon entendeur. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France. Gilles Bataillon, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et Jean-Yves Leloir, chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, enseignant à Paris 3 et Paris 1. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook Géopolitique Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à Cuba, à la veille de la visite en France de Raoul Castro. À demain.